Bonsoir. Le show ce soir, vous avez vu le titre. Et avant de commencer le show, il faut bien comprendre que ce show n'est pas un mot d'emploi. Il n'est pas un mot d'emploi, comment il faut se conduire, comment il faut agir. Ce sont des informations. On va familiariser un petit peu, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de dire un petit peu ce qu'il est marqué dans la Torah à ce sujet. Donc, on va essayer de donner quelques informations. Éventuellement peuvent être utiles, mais il n'est pas là pour donner des informations complètes, ni à appliquer tout ce que je vais dire, forcément. C'est à chacun après de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie, etc. Alors, cette histoire peut arriver des fois, oui. Et ça peut arriver, comme nous allons voir dans le Chumash, dans la Tanakh. Ça peut arriver même dans des bonnes familles. Quand on dit bonne famille, c'est des très bonnes familles. Et quand on dit très bonne famille, c'est des vraiment très, très, très bonnes familles, avec des gens de beaucoup de qualités. Il peut y avoir quelque chose, un Yetzer Hara, un travers qui peut provoquer des choses qui sont pas sous-estimées, avec des conséquences plus ou moins gravissimes. S'il faut bien sûr distinguer quand on parle grave, pas grave, il faut être très vigilant de savoir à qui on parle. Parce que si on parle avec un enfant, éventuellement il a subi quelque chose. Il ne faut pas dire à cet enfant ce qu'on dirait à l'agresseur ou ce qu'on dirait à un adulte ou ce qu'on dirait à un enfant qui est amer. Il y a des enfants qui ne ressentent pas pour le moment ce qui s'est passé, mais peut-être ils vont jamais avoir des conséquences. Alors, il faut pas les faire paniquer. Souvent, les enfants, ils savent pas exactement de quoi il s'agit et les éventuellement conclusions, conséquences. Faut pas les alerter. Ils peuvent s'imaginer des choses graves. Ils peuvent s'imaginer toutes sortes. Les enfants, ils ne sont pas, ils n'ont pas les connaissances. Ils peuvent s'imaginer les choses les pires. Des fois, il y a des enfants qui croient parce qu'il était touché, il peut être s'imaginer, lui, je pourrais plus me marier, je pouvais plus avoir d'enfants, ou je dois me fuir dans le... Bon, toutes sortes de déformations, et à plus forte raison, s'il entend des parents, ou à la synagogue, ou à l'école, ou dans la rue, il entend parler, c'est grave, c'est grave, il peut se mettre dans la tête que c'est plus grave, et lui, il pensait pas que c'est grave, et s'il pense que c'est pas grave, tant mieux. Donc, conclusion de ce que je veux dire, faut faire attention, si on dit grave, on dit pas grave, devant qui on parle. Si un enfant, il dit, moi, je considère que c'était grave, il ne faut pas dire non, c'est rien. Ah, il faut pas. Mais il faut faire comprendre à l'enfant où est la qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il ne va pas penser, mais il ne faut pas exagérer que c'est grave, frère Michelon. Alors, on va commencer un petit peu par aller me demander qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah sur ce sujet? Est-ce que ça existe? La Torah, elle a abordé. C'est vrai que dans la Torah, on ne trouve pas qu'elle aborderait directement avec ses paroles le fi apshat, qu'elle apporterait. La Torah n'aborde pas forcément tous les sujets de façon claire. C'est pas un livre de médecine ou de biologie ou de physique ou de mathématiques ou de géographie. Non. Ces choses sont, on trouve dans la Torah, qu'alpisot, palpipshat. Mais ce qui concerne le nefesh, ce qui concerne l'âme, ce qui concerne le comportement humain, ça c'est le fond du fond de la Torah. Est-ce que la Torah, elle aurait parlé de ça? On verra un petit peu. La première des choses, imaginons-nous un adulte, il prend un enfant. Je ne parle pas maintenant de faire une vraie avéra. Je ne veux pas aborder le problème d'une vraie avéra. Un homme qui fait un avéra avec une fille ou qui fait un avéra avec un garçon, ce n'est pas ça qu'on va aborder, Baruch HaShem. Ça peut aussi exister. Tout peut exister, mais ce n'est pas ça le sujet. On parle des choses qu'on appelle l'attouchement. Où c'est marqué dans la Torah qu'il y a un problème? Où pourrait se situer le problème? On verra un petit peu les conséquences. Et à la première des choses, il est marqué dans la Torah. Je pense que c'est connu, c'est plutôt connu, il me semble. Et ça existe des Aseret HaDibrot, il me semble. Comme ça, j'ai entendu dans ma jeunesse. Il me semble que tous les Juifs connaissent la Aseret HaDibrot. Oui. Alors, dans Aseret HaDibrot, il est écrit Lo tignov, tu n'as pas le droit de voler. Traduction voler. Tout le monde disait qu'est-ce que c'est voler? On n'a pas le droit de prendre l'argent de l'autre. On n'a pas le droit de prendre la mobilette de l'autre. On n'a pas le droit de prendre les biens de l'autre. Il existe encore une autre chose qui n'est pas très connue, Baruch HaShem, depuis qu'on a arrêté la vente des esclaves. Il existe dans la Torah quelque chose qu'on vole une personne. On peut voler pas seulement l'argent de quelqu'un ou la liberté de quelqu'un. On peut voler la personne lui-même. Un homme, il prend un enfant et va le mettre dans une chambre. Un homme, il va prendre un enfant dans une chambre et il va fermer la porte. L'enfant ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ça s'appelle on a volé un enfant. On a privé quelqu'un de ses droits, de sa liberté. Si on fait ça, d'abord on a transgressé Lo tignov. C'est interdit. La Torah aborde le sujet de voler une personne trois fois. Une fois dans Parshat Devarim 24, verset 7. Ki matzeh ish gonev nefesh me'echav. Si on trouve un homme, Gonev, qui a volé nefesh, une personne, me'echav ibn Israël, de ses frères de Juifs, vit amerbo, et il a utilisé cette personne. Il a volé une personne. C'est quoi voler une personne? Enlever un enfant de chez son père, ou dans la rue, ou un autre endroit, et on le empêche de rentrer à la maison. Vite à Merbo, et il a utilisé. C'est quoi utiliser? La Torah ne définit pas. Utiliser, ça peut être j'oblige l'enfant de m'apporter un café. Ou peut-être, même si je ne l'oblige pas, peut-être je lui demande. Je l'oblige. Vite à Merbo. Ça peut être faire un café. Je l'oblige de me faire un café. C'est Ita Merbo. Toutes sortes. La Gemara dit dans Sanhedrin, même si l'utilisation ne vaut moins qu'une peruta. Pas seulement si le profit de l'adulte, du voleur, c'est une peruta, même si c'est une utilisation de moins que peruta, même si c'est une utilisation honorable, c'est vita merbo. À plus forte raison, si l'utilisation est quelque chose de dégradant, quelque chose qui dérange. Après, la Torah nous raconte Umecharo, et après, la personne, il a vendu. Donc, un homme, il a volé quelqu'un, il a utilisé la personne, une fois, mais moins qu'une pruta, Umecharo, après, il a vendu. Alors, faites attention. Ce n'est pas ça le cas, faites attention, ne prenez pas mes paroles, hein, c'est shalom. La Torah continue à dire, ne prenez pas ça à la lettre, la Torah continue à dire, Umet haganav ahu, et ce ganav, il meurt. Ubiar tara mikirbecha, et tu enlèves le mal de ton intérieur. Il me parle qu'il a vendu la personne. Qu'est-ce qu'il se passe si on ronde après la personne? Quelqu'un, il a volé quelqu'un, il l'a utilisé. Et après, il dit non, je ne le garde pas, je le rends. Alors, il n'a pas transgressé, Umecharo, il n'a pas vendu. Alors, il ne mérite pas la mort. Il ne mérite pas la mort, il n'a pas vendu. Parce qu'il n'a pas fait tous les trois parties, voler, utiliser et vendre. Il a fait deux choses. Il a volé, il a utilisé, après il a rendu. Mais rendre, ça s'appelle voler et rendre, ça s'appelle aussi voler. Tous ceux qui font le Perekezonesh, ils savent. Voler avec l'intention de rendre, ça s'appelle voler. Ça s'appelle voler, même si on a l'intention de rendre. Alors l'homme ne mérite pas la mort. D'accord. En tout cas, enfermer quelqu'un. La Gemara parle par hasard à ce sujet. Quand quelqu'un, un enseignant, il enferme un enfant. Et la Gemara parle qu'après il a vendu l'enfant. Parce que là, il mérite la mort ou il ne mérite pas la mort. Est-ce que le lieu où les parents l'ont envoyé, bon, mais on ne va pas rentrer dedans parce que ce n'est pas ça notre cas, ce n'est pas ça notre sujet, Baruch HaShem. Toujours Baruch HaShem, personne n'y vend aujourd'hui des enfants. Mais il s'agit de ce que la Torah parle dans les Aseret HaDibrot. Quand la Torah nous dit « Lotignov, ne vole pas », tous les enfants qui sont au cheder, ils savent, « Lotignov » de la Torah, on parle « voler une personne ». Parce que le « Lotignov », il est marqué à côté de « Lotinaf », à côté de l'otirzach, ne tue pas, ne fais pas l'adultère, et l'otignov ne vole pas. Et la Gemara nous dit de la même manière que l'otinaf va faire l'adultère, l'otirzach de ne pas tuer, la Torah châtie ça avec la mort. Alors le l'otignov, la Torah châtie avec la mort. Or, voler de l'argent, on n'est pas châtié par la mort. Donc la Torah, l'otignov, elle parle de voler une personne. Et à demi-chiour, la demi-mesure de l'otignov, ça inclut voler aussi de l'argent. Mais le ikar iso, ce n'est pas voler une personne. Maintenant, il y a voler et vendre, et il y a voler et rendre après. Ça, c'est une chose. Cette même histoire, presque la même histoire, elle est marquée par cette mishpatim. Il y a chapitre kaf alef, shemot kaf alef, pasuk da'et zayin. וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. וגונב איש ומחרו אין הום כי בוא לנום, ומחרו אילה ונדו, ונמצא בידו הפנון התרובה מות יומת, כבר לכילה אוטיליזה כמו לגמרנו רקונט. אלא כמו לגמרנו די, לספרי ששנש פס איש אין אדולט, או איש אין אופן, אסתרה. Ça, c'est une chose. Mais regardons un petit peu de plus près. Un petit peu plus près, c'est quoi? Imaginons-nous une personne, un adulte, il va prendre un enfant et il dit, je voudrais te voir, je voudrais pas voir ton corps. Il veut voir le corps. Et ça gêne à l'enfant. Est-ce qu'on a le droit de regarder sur quelqu'un, de demander à quelqu'un de se dévoiler quand il n'a pas envie? Parlons pas d'un corps. Est-ce qu'on a le droit de regarder à travers la fenêtre ce qui se passe dans la maison de quelqu'un? Observer ce qui se passe dans la chambre, dans le salon. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est quelque chose de correct? Tous ceux qui ont fait Baba Batra, ils savent qu'il existe quelque chose, Ezekriya. Rentrer dans la maison de quelqu'un et regarder. Pas le droit. Sans permission, tu n'as pas le droit. Rentrer dans la chambre. Coucher quelqu'un sans droit. Quand la Torah nous décrit Reuven, et la Torah dit sur Reuven qu'est-ce qu'il a fait avec sa belle-mère. Et Chachamim raconte Chassé Shalom, il n'a jamais fait un avira. Mais il est rentré dans la chambre à coucher de son père et de sa belle-mère. Il est rentré, il a enlevé le lit. Alors la Torah dit il est rentré dans la chambre à coucher quelqu'un. La Torah appelle ça Vayishkav Reuven et Bilha Pilegesh Aviv. La Torah, elle appelle ça Vayishkav. Parce que dans la Torah, les expressions sont, nous semblent à nous surdimensionnées. Parce que la Torah parle un langage qui définit le fond de la chose. Malgré que l'homme, il a fait. Il y a un tout petit peu du fond. La Torah elle a souvent une expression comme ça. Ça, c'est rentrer dans la maison de quelqu'un, regarder. Regarder quelqu'un dans une partie que normalement on ne découvre pas. Alors, pas encore de toucher. Regarder. Alors, ici, pour comprendre de quoi il s'agit, d'abord, demander à quelqu'un de faire quelque chose qui n'a pas envie ou obliger quelqu'un, il y a une interdiction que les gens ne savent pas tellement. Que obliger quelqu'un de faire un geste qu'il n'a pas envie de faire, c'est une avera minatora. Dire de bobefarech, de la même façon que saouler quelqu'un de me donner quelque chose, un homme il saoule l'autre, donne-moi ce cadeau, donne-moi. Et il le saoule, et l'autre, il ne veut pas, il n'a pas envie. Et à la fin, il en a marre de dire non, alors prends la chose, malgré qu'il permet. Il transgresse les sauts de l'otachmod. Ça, c'est même s'il s'agit d'argent. S'il s'agit d'argent, à plus forte raison, quelqu'un qui saoule l'autre. Donne-moi une partie de ton corps, donne-moi ta main, je veux tenir ta main, et l'autre dit, je ne veux pas que vous touchez ma main. On oblige, transgresse une avéra de l'otachmod, l'otir de babefarech, il y a plusieurs interdictions dans la Torah. Ça s'appelle de la violence. Maintenant, quand il s'agit de la violence, alors le regard sur la partie intime de la personne, qu'est-ce qu'il se passe? Les Goyim, probablement, peut-être une partie, oui, ils ont vu la Torah, donc ils se sont influencés par la Torah. Mais même les gens qui connaissent pas la Torah, ils ont fait l'expérience. Moi, quelle expérience que parfois chez ces enfants peuvent avoir des séquelles. Je ne dis pas que c'est obligé. Il faut souhaiter qu'il n'y aura pas de séquelles, Bezat Hashem. Mais il peut y avoir des séquelles. Il peut y avoir des séquelles pour des années, même quand ils sont petits, des fois. Ils ne remarquent pas, ils ne savent pas. Plus tard, ça peut sortir plus tard. D'une façon très violente, ça peut se réveiller plus tard. On peut faire un déni pendant des années pour différentes raisons, comme ça ils appellent ça les psychologues, les psychiatres, on fait un déni. Un événement désagréable, on veut chasser de l'esprit parce que c'est tellement désagréable qu'on ne veut pas se rappeler, on oublie. Jusqu'à un moment où quand on est grand, ça revient. Il paraît qu'il y a des fois des parents qui amènent leurs enfants à un psychologue ou un psychiatre pour que l'enfant il raconte si jamais il a subi quelque chose. Il y a certaines histoires où on raconte, quand l'enfant il raconte, alors c'est la mère qui tombe dans les pommes. Et pas parce qu'elle a, pas seulement parce que son cœur fait mal de ce qui est arrivé à son enfant, parce que des fois la mère se rappelle ce qu'elle a subi il y a 20 ans, 30 ans. Et d'un coup, ce que le déni lui revient, elle fait une crise. Il paraît que c'est pour ça un psychologue qui reçoit un enfant pour ces choses-là. Il doit être au même moment un psychologue pour adultes aussi. Il faut ramasser la mère. En tout cas, ça peut être plus tard. Mais essayons de comprendre un petit peu plus. Dans la Torah, il est marqué qu'Adam Arishon, il a fauté. Il était au Gan Eden, il a fauté. Avant qu'il a fauté, il n'avait pas des habits. Et une fois qu'il a fauté, il se sentit mal. C'est tellement senti mal, tout de suite il a couru pour se couvrir. Il s'est couvert, les parties intimes, il s'est couvert. Ça veut dire que la première des choses que la Torah nous raconte, la honte que l'être humain il a, c'est qu'il faut d'abord couvrir la partie intime. En vérité, le corps humain, il est génial, il est merveilleux, il est fantastique. Chaque membre, chaque organe. On va pas faire ici un cours de biologie, mais tout le monde le sait. Chaque chose, l'œil et l'oreille, les yeux et la bouche et la langue, et le sang et la peau et les cheveux, tout est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et quelqu'un qu'on le prive de quelque chose, ça fait mal, et c'est triste, et c'est tragique. Quelqu'un qui perd un doigt, l'utilité d'un doigt, etc., ou la beauté d'un doigt. Mais la première des choses, c'est la personne, il sent tout de suite ma partie honteuse. Cette partie, il faut que je la couvre. Cette partie ne doit pas être visible. Ça, c'est inné, et aucune culture. Sauf peut-être il y avait des cultures vraiment hors jeu, n'a pas pu tenir ça, cette philosophie. L'être humain, il est créé comme ça qu'il sent qu'il est obligé de couvrir. Découvert, c'est une honte profonde. Pourquoi c'est comme ça? On dirait que la raison, elle est que l'appareil de reproduction, malgré que tous les organes sont très importants, ils sont très merveilleux, mais l'appareil de reproduction, il est tellement puissant que l'homme, il peut se reproduire et vivre éternellement Le corps que l'homme il a, il vit combien? 70, 80, 120 ans. Et après, tu viens de la terre et tu retournes vers la terre. Mais l'homme, il a un appareil de reproduction avec lequel, un an, il peut se doubler, il peut se tripler, 5, 10, 15, après une, deux, trois générations, éternellement, par des milliers. L'homme peut vivre 1000 fois grâce à cet appareil. C'est un appareil qui est tellement puissant, tellement génial. Et ça, Dieu, il a créé dans la nature de l'homme plus que quelque chose est puissant, une grande valeur, plus il faut qu'il soit protégé. Il faut absolument protéger. Quand on a des bijoux qui vont à 1 million à la rue de la Paix, alors dans les bijouteries, alors c'est derrière des vitres blindées avec un sas, avec des vitres, etc. Et quand au marché de Garges ou de Sarcelles, on vend des bracelets en or, où il y en a 50 bracelets étalés sur le... Alors donc tu peux être sûr qu'il s'agit du toc. Il n'y a pas de truc. Ça, c'est des choses qui valent 3 centimes. On achète en Chine pour 3 centimes. Les choses qui sont chères, ici à Kadosh Baruch Hu, il a créé une partie dans le corps. C'est vrai que la tête, il est très important. C'est pour ça qu'il est protégé par des os à l'extérieur pour que le cerveau, chas shalom, ne reçoive pas de coups, etc. Chaque chose, il est fait. Chaque chose, il est fait. Ce qu'on a besoin, la tête, il faut être protégé, le cerveau, chas shalom, qui ne reçoit pas la moindre coup, donc il y a des os. Mais la partie honteuse, elle n'est pas protégée par des os, mais elle est protégée par un sentiment profond qu'on cache ça. Ce n'est pas pour les autres pour regarder. Ça doit rester intact parce que la mission de l'appareil de reproduction, cette mission, elle est très spéciale. Dans la Torah, on le sait que cette mission est très spéciale, cette partie du corps est très, très spécial, c'est Kodesh Kodashim. Pour un garçon, on lui fait la Brit Mila, c'est Kodesh, Brit, Kodesh, Koreta Brit, c'est Kodesh Kodashim. Le Kodesh Kodashim du Bet HaMikdash, c'est ça qui est marqué dans Chazal, la Kodesh Baruch Hu, le Shem Yuchot Kutche Brich Hu Shchinte, la Kodesh Baruch Hu s'unit avec la Shchina, la Kodesh Baruch Hu s'unit avec le peuple juif, une fois par année, au Kodesh Kodashim. Et à ce moment-là, c'est interdit, tous les rapports entre un homme et une femme sont interdits pendant Yom Kippour, parce que Yom Kippour, c'est le grand Yichud entre Kadesh Baruch Hu, qui est Kevayachol, le mari, et le peuple juif. C'est l'épouse, la Shrina d'Akadesh Baruch Hu. Et donc, il y a un Yichud, et ça se fait en de plus grands secrets, de plus grands cachettes. Rol Adam, Loye Boel Moed, aucun homme a le droit d'assister les choses entre un homme et une femme, la création d'un enfant doit se faire, tzniut, doit pas se faire devant les gens, et pas seulement la chose doit pas se faire devant les gens. Cet appareil doit rester en silence, il doit rester reculé. C'est pas ni à être utilisé par personne d'autre. C'est le rechout ayachid le plus grand qu'un homme il a. Un homme il a une maison qu'il a achetée, c'est sa maison. Personne n'a le droit de rentrer dans ma maison sans ma permission. Mais mon corps, il est encore beaucoup plus mon patrimoine que ma maison. La maison peut vendre, mon corps on ne peut pas vendre. Une maison, si quelqu'un a ce seul homme me casse, je peux acheter une nouvelle maison. Mon appareil de reproduction est à moi et à personne d'autre. Rentrer et s'accaparer de ce qui appartient le plus intime de l'autre, même s'il ne change pas, il ne change pas la maison. Mais il était dedans, il a regardé. Noir, il se déshabillait quand il était saoul Et Ham, il est venu, il a vu, et il a raconté en rigolant. Et Shem a pris la couverture avec Yafet, ils ont couvert. Et Shem, tu es béni, mon fils. Et Yafet aussi, tu es béni. Et Ham est arrivé ce qu'il est arrivé. La Torah raconte ici des choses profondément importantes pour la base de la civilisation. Et de ça découle tout ce que la Torah après raconte sur l'appareil de reproduction, les interdits d'adultère ou de l'inceste, tous les abus et tout parmi tous les perversions sur lesquelles la Torah dit les vraies perversions après, sur lesquelles la Torah donne après Chayv écrit tout. Tout ça, ça s'est basé sur le principe que cet appareil, il est Kodesh Kodashim. Et c'est à personne d'utiliser qu'à cette personne, l'utiliser dans de bonnes, dans des mythes pour des mitzvot, pas pour d'autres choses. Et une autre personne se mêler, une autre personne n'a pas le droit de se mêler. C'est ça, c'était, comme Chachem raconte, le serpent. Le serpent, il s'est mêlé dans l'histoire d'Adam et Chava, etc., etc. Étant donné que entrer dans le sein de saint de l'homme, une femme, c'est seulement si, c'est la même chose. Rentrer, les dégâts, à cause de ça, les dégâts peuvent être tellement graves. Les non-juifs qui ne regardent pas la Torah, ils constatent les problèmes à ce genre qui pourraient être, ne sont pas obligés d'être, mais qui pourraient découler de ça. Ils constatent, je ne sais pas s'ils savent la raison pourquoi c'est comme ça, mais ils constatent des fois de désordre psychologique qui peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et les victimes, des fois, dans des cas graves ou moins graves, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est grave, des fois il y a des choses. Parce que comme c'est sentimental, c'est beaucoup sentimental, donc c'est le chiour de sentiments de honte et de dégradation et que je servis à l'autre, que j'étais son serviteur pour des choses viles, à quel point ça peut créer une honte de soi-même et à quoi ça peut amener les gens après. Ça dépend évidemment d'une personne, une autre personne, c'est pour ça que c'est très important, le plus vite. Si on peut faire parler les gens, comme chaque traumatisme, barminan, quelqu'un assiste à un accident de voiture ou un attentat, ou etc., on le sait qu'il faut tout de suite parler, raconter, partager avec une autre pour pouvoir après le remettre dans la tête correctement pour pas que ça devienne une charge qu'à la fin il explose dans la tête ou crée des dépression ou qui crée des comportements bizarres ou des personnalités dérangées après toutes sortes de choses. Il existe, il pourrait exister. Ça, c'est une chose, mais maintenant, si ça a été fait contre le gré de quelqu'un, alors il y a d'autres choses ici. D'autres choses, on va parler un petit peu après, mais d'abord, je vais raconter ici une histoire que tous ceux qui ont fait du Tanakh, ils connaissent l'histoire. Elle est facile à trouver. Elle se trouve dans le livre de Shmuel, deuxième livre de Shmuel, chapitre Yud Gimel. C'est l'histoire de Tamar et Amnon, deux enfants, ou un enfant du roi David. La Torah, la Tanakh, nous raconte une histoire. Elle est très importante à connaître, cette histoire, malgré que c'est une histoire dans le Tanakh. Ce n'est pas une histoire du 21e siècle. Et les histoires du Tanakh, les acteurs, entre guillemets, sont des grandes tzadikim et des circonstances très spéciaux, des très spéciales. Et comme dit la Mishnah dans Sota, l'homme normal, l'homme classique, un homme simple ne peut pas comprendre de quoi il s'agit, les enjeux, de ces personnes et ce qui s'est passé dans leur tête. Donc, il faut prendre toutes les histoires du Tanakh avec beaucoup, beaucoup d'attention et essayer de comprendre. Mais on lit quand même parce que si la Torah nous raconte l'histoire, c'est on peut comprendre beaucoup de choses. Et d'ici, d'ailleurs, on voit que ces choses peuvent arriver chez les meilleurs. Alors, quelle est l'histoire? Donc, la Torah nous raconte à David HaMelech, il avait un garçon qui s'appelait Amnon, c'était le fils aîné. Le fils aîné du roi David, il s'appelait Amnon. Il avait un fils qui s'appelait Avshalom. Il avait une fille qui s'appelait Tamar. Et Tamar et Avshalom étaient du même père, de la même mère. Mais Amnon était d'une autre mère. Bon. Et Tamar, elle était très belle. Comme dans les livres, elle était très belle, spécialement. Et ce Amnon, il a vu sa demi-sœur. Alors, il est tombé amoureux. Tombé amoureux, c'est il est tombé malade. Il est tombé malade. Alors, il avait un copain. Le copain est venu visiter. Il dit, ça va pas, Amnon. Il dit, non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur, je suis fou d'elle. Alors, c'est un grand copain. Que Dieu nous protège devant de tels copains. Mieux avoir un ami, un ennemi comme copain que de ce genre de copain. Il a dit, fais un petit stratagème. Alors, tu te fais passer pour malade. Vraiment, il était malade. Et tu demandes qu'elle vienne pour te faire des beignets que ton père demande. Il se met au lit, il était malade. Alors, il demande que son père vienne le visiter. Et David, il entend, son fils est malade, il vient le visiter. Il dit, qu'est-ce que je peux te faire? Il dit, écoute, c'est papa, si tu, Tamar, ma sœur, vient, elle me fait deux beignets, ça va me faire plaisir et je vais guérir. Ça va me faire du bien. Et David HaMelech, il a dit à Tamar de venir visiter son frère malade. Elle est venue, elle a fait les beignets. Et après, elle a envoyé devant lui, il n'a pas pris. Elle a refusé. Alors Amnon, il a dit, faites sortir tout le monde. Il y avait plusieurs personnes au sol, faites sortir tout le monde de la chambre. Tout le monde, il est sorti, il est resté seul avec elle. Après, il dit, viens, approche-toi dans la chambre, amène-moi, je veux manger de toi-même. Elle a amené dans la chambre mamash. Lui, il a attrapé, il a dit, ma sœur, laisse-toi de faire une bêtise. Elle dit, non, ne fais pas ça. Où je vais conduire ma honte? Pour moi, c'est une grande honte. Et pour toi, ce sera une très grande honte. Mais si tu veux, je suis d'accord de te marier avec moi parce que la halakha, c'était permis de se marier. Soit parce qu'elles étaient yefatoires, d'après un avis, la première fois, on a le droit de vivre avec yefatoires de la guerre avant la conversion, et d'après l'avis qui dit on n'a pas le droit, c'est qu'en vérité, Tamar n'était pas la fille de David HaMelech. Sa mère était déjà enceinte quand David HaMelech l'a fait rentrer chez lui à la maison. Bon, nous sommes permis à bien de se marier. Dis à papa, papa sera d'accord que tu te maries. Il a dit non, j'attends pas, maintenant. Et il a fait ce qu'il a fait. Après qu'il a fait, il a dit, maintenant tu dégages. Elle a dit, ce que tu fais maintenant de me dégager, de me foutre dehors, c'est pire de ce que tu m'as fait au début. Ça, c'est pire. Parce que de me foutre dehors, probablement, le sens il est, tu vas dire que c'est moi qui a t'embêté. Pas toi, tu m'as embêté, tu veux faire maintenant tourner que moi je suis la faute. Ou c'est ça le pshat, ou le pshat il est autrement. Le kitsour, il a dit, faites-moi sortir, il a crié, rentrez, faites-moi sortir cette fille-là, et fermez la porte après, comme si qu'elle arrête de m'embêter. C'est Tamar la méchante. Alors Tamar, elle a déchiré son manteau de princesse, elle a mis de la cendre sur la tête, elle se mit à hurler, hurler. Très important à savoir que Tamar, elle a hurlé. Elle a hurlé. Pas avant, avant elle n'a pas hurlé, probablement elle ne pouvait pas. Elle ne croyait pas qu'il va le faire, ou elle ne pouvait pas, ou elle était tétanisée, ou il a fermé la bouche. Après, elle a hurlé que tout le palais royal sera au courant. Elle marche, et Avshalom, il voit sa sœur hurler. Alors, Avshalom, il dit, tu étais chez Amnon. Il a compris, Avshalom, il a tout compris. Il a dit, tais-toi, ne dis rien. Avshalom, il dit à sa sœur, ne dis rien. Tais-toi. Bon, elle se tue. Elle est partie habiter chez son frère Avshalom, plein de honte. Elle est devenue un sujet de honte et ça a duré 2 ans. Après 2 ans, Avshalom, il a fait une fête avec beaucoup de temps et il est venu chez son père David. Il a dit, papa, je fais une fête, tu peux assister. Je voudrais bien que tu assistes à la fête que je fais pour ton les moutons, on donne le coin, etc. Alors David, il a dit, non, moi, je ne peux pas, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à faire. Alors, il a dit, mais tous les frères, ils viennent. Toute la famille vient. Il dit, très bien, toute la famille vient, mais moi, je ne viens pas. Alors, Avshalom, il dit, papa, dis à Amnon de venir avec nous. Alors, Dora, il a dit, pourquoi tu veux qu'Amnon vienne? Il s'est rappelé David d'histoire. Il a entendu l'histoire, il se tue quand il a entendu. Pourquoi tu veux qu'Amnon vienne? Elle a dit, papa, s'il te plaît, dis, je veux qu'Amnon vienne, comme soi-disant de faire la paix. Alors, elle a dit, Amnon va. Ici, Avshalom, il a demandé à ses serviteurs, on va donner à boire à Amnon du vin, et quand il est bien saoul, il y en a un parmi vous qui le tue. N'ayez pas peur de le tuer, je suis le prince, et il mérite la mort, cet homme. N'ayez pas peur. Et comme ça, ça a été, il y en a un qui a tué Amnon. Les autres, ils ont vu ça, un assassinat. C'était la fête, était finie. Ils se sont sauvés, chacun se sauvait. Ça tournait au drame. Et quelqu'un est venu à raconter à David et Meller, une catastrophe est arrivée. Quoi? Le pire que vous pouvez vous imaginer. Quoi? Tous vos enfants ont été assassinés pendant la fête. Et Meller, il a entendu ça. Il a déchiré ses habits. Et après, quelqu'un est venu et dit, « Monsieur le roi, non, c'est faux. Tous vos enfants sont vivants. Il y en a un qui est mort, Amnon. » C'est un stratagème d'Avshalom pour faire avaler à David. Bon. Et après, Avshalom, bien sûr, il est parti de chez son père. Ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend de cette histoire beaucoup de choses. Elle a hurlé. Elle a appelé les gens. Elle a publié ce qui s'est passé. Mais Avshalom, il a dit, tais-toi. Alors, ça s'arrêtait. Arrête. Ne raconte pas. Est-ce qu'Avshalom, il voulait quoi? Il voulait cacher leur honte? Où il voulait préparer la vengeance. 2 années après, il se vengeait avec un bon stratagème. Comme Amnon, il a fait un stratagème, comment piéger Tamar. Avshalom, il a payé. 2 années après, caché. Ça veut dire pendant 2 années, ça bouillonnait chez Avshalom. Ce qu'il a fait doit être puni. Est-ce qu'il a bien agi à Absalom ou pas? Est-ce qu'il méritait la mort ou pas? En principe, pas la mort. Peut-être parce que c'est une fille de roi, mais élevée chez le roi, le kavod lui a rendu impur, a fait le scandale chez l'homme le plus pieux du peuple juif. Jamais il y avait un homme chassid dans le peuple juif qui est David HaMelech. Et toi, tu as osé d'amener une honte sur notre père à tel degré. Absalom est le jugé comme ça. Bon, mais nous ne voulons pas faire l'histoire de David HaMelech. Ça, c'est des choses spéciales. Mais qu'est-ce que David HaMelech il a fait comme conséquence? Tout de suite à cette histoire-là, quand c'est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait David HaMelech? Il est interdit, lui et le Bédine se sont réunis. Il est interdit pour un garçon de rester seul avec une fille, même si elle est célibataire. Selon la Torah, l'interdit d'être avec une femme, s'isoler, c'est quand la femme est une femme interdite au mariage, c'est une femme mariée. C'est une femme mariée ou c'est une femme avec la, sur laquelle il y a l'inceste qu'on n'a pas le droit d'être avec elle. Le droit interdit, sauf les femmes permises, un homme avec sa femme, même si elle est nida, un père avec sa fille, une mère avec son fils. On n'a pas le droit d'être avec une belle-sœur, pas le droit de s'isoler. C'est Chayv Ekritut de vivre avec elle, donc il y a une interdiction de s'isoler. Ou une cousine aussi c'est une fille. Une cousine c'est une fille, il faut savoir. Cousine, c'est pas une sœur. Un frère, une sœur, c'est permis. Et c'est pour un court laps de temps, pas vivre systématiquement. Malgré qu'un frère, une sœur, il faut aussi faire attention. Il faut avoir un œil. Souvent, les garçons spécialement, ils sont curieux. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a une, qu'est-ce qu'il y a une fille. Il y a souvent des histoires, un garçon joue au docteur. Ou un peu plus grand, il peut vouloir voir sa fille, et des fois, touche, etc. Et ça peut laisser des traces chez la sœur. Ça peut laisser des traces. Elles peuvent être traumatisées. Un garçon qui touche sa sœur, elle a 13 ans, lui, elle a 7 ans. 13 ans, mais 7 ans, elle a 5 ans, elle a 8 ans. Il y a des histoires, il y a toutes sortes d'histoires. Ça peut, dans toute famille. Si c'est David HaMelech, ça peut, ces histoires peuvent arriver partout. Le Yetzer Hara n'oublie personne. Depuis, il a une très bonne mémoire, il n'oublie personne. La Gemara dit dans Maseret Sukkah, le Yetzer Hara, il est prêt à abandonner tous les goyim pour s'occuper que des juifs. Il gagne beaucoup plus de séduire les juifs que les goyim. Pour séduire des Chinois pour le péché, il faut qu'ils séduisent 1 milliard, 300 millions, 400 millions de gens. C'est mieux de s'attaquer à 20 millions de juifs, comme ça le monde n'a plus de maître, et comme ça on n'a plus besoin de s'attaquer aux Chinois. S'il n'y a pas des juifs, les Chinois aussi, ils oublient Dieu. Et chez les juifs, ceux qui connaissent la Torah sont exposés, les tzara, ils veulent, parce que s'il arrive là, il y a la Kedusha, après le reste des peuples, c'est plus facile. Donc chacun, il est, selon la Torah, donne des conseils quand on étudie la Torah et quand on applique la Torah correctement. Dans ce cas-là, il n'y a pas une meilleure protection que la Torah. Mais quand on ne le fait pas bien, il peut avoir les Yetzara, il peut rentrer dans la tête. Dans Mitracham aussi, dans ce qu'il y a beaucoup de Gmarod, dans Mseret Kipushin, là, on nous raconte. Les Chachamim faisaient attention de ne pas faire Yichud. Il faut faire attention à Yichud. Faire attention à Yichud. Faire attention, même à son garçon, sa fille, il faut faire attention. Seulement, quand on dit, il faut faire attention, il faut savoir. Il ne faut pas trop vivre dans le Rassécher. Il ne faut pas vivre dans un terreur. Il ne faut pas soupçonner partout, mais il faut avoir l'œil. Avoir un œil discret. Où sont les enfants après l'école? Qu'est-ce qu'ils font pendant leur temps libre? Qu'est-ce qu'ils font dans les vacances? Où ils se trouvent? faut avoir un œil sur ces garçons, ces filles, et quand on voit un changement, les parents y voient un changement, l'enfant commence à se comporter bizarre, ou agressif et tout. Et on ne sait pas, souvent les parents, ils ne savent pas, mais qu'est-ce qu'il se passe? Une fille ou un garçon qui est agressif, ils n'étaient pas comme ça, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Alors, des fois, il faut se demander s'il est arrivé quelque chose. C'est très important qu'on ait un contact avec les enfants agréable de manière que les enfants ils sont prêts à partager leur entre guillemets expérience ou malheureuse expérience. C'est mieux que tout de suite au début, quand un enfant il vient chez son père et sa mère, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Oui, je sais pas, j'étais aux toilettes et monsieur est venu. Bien, écoutez, oui, je sais pas, je me suis pas senti bien et il m'a regardé ou d'autres choses. Ma fille, elle est au métro, elle va à l'école, dans l'autobus, et quelqu'un l'attrape. Il faut que la fille le raconte à la mère, il faut qu'elle raconte. Il faut que les parents, d'un côté, ont un contact chaleureux avec leurs enfants et que les enfants, ils savent qu'on peut faire confiance à papa et maman de leur tout raconter. C'est primordial. On peut tout raconter aux parents. Souvent, les enfants, ils disent, non, moi, je ne peux pas te raconter, c'est trop, non, tu ne peux rien comprendre. Les enfants à 18 ans, ils croient que la maman à 40 ans, elle ne peut rien comprendre, qu'elle a eu une petite aventure avec un copain. Toi, tu ne peux rien comprendre, tu peux... Ah, tu n'as rien comprendre, pourquoi? Parce que moi, à 40 ans, je n'ai pas passé les 18 ans, moi. Et les enfants, ils ne savent pas, il faut depuis le début, quand les enfants sont petits, faut dire, il faut d'abord, évidemment, il faut que le père et la mère, au moins un des deux, les deux, ils sont bien avec les enfants, le contact est bien, on partage, on se raconte, et on peut dire clairement, et il faut dire clairement, si jamais quelqu'un il te rencontre ou il te touche, ou quelque chose de désagréable, il te dit, alors il te fait, il te regarde, alors tu me le racontes. Et spécialement, des fois, il faut leur dire, si quelqu'un il dit, tu ne racontes surtout pas à tes parents. Ne raconte pas si quelqu'un, il faut dire aux enfants, si quelqu'un il te demande de faire quelque chose en disant, tu ne le racontes pas à tes parents, ça veut dire qu'il faut raconter. Et ici, c'est la deuxième volée de l'histoire. De pas raconter, et qu'est-ce qu'il se passe dans ces cas? Comment ils travaillent ces gens? Je parle pas de que par hasard, une fois exceptionnellement, c'est arrivé. Lui, c'est mais quand quelqu'un il s'habitue à ce shalom. Il y a des professionnels, il devient des professionnels de mensonges et de manipulations et d'inverser et de créer chez l'enfant la peur. De toucher un enfant et de dire, tu racontes pas à ton père et à ta mère, tu racontes à personne. Et ils donnent des cadeaux, ils menacent. L'enfant, il veut parler, et plus que l'enfant veut parler, plus l'autre, il fait des menaces. Et là, il commence à s'installer, à ce seul homme, un deuxième désastre dans la tête. Le premier, que sa partie la plus intime, quelqu'un, il a eu accès. Et la deuxième, une manipulation psychologique de faire croire à l'enfant qu'il n'a pas des droits de parler, il n'a pas le droit des droits de se défendre, il n'a pas le droit de se considérer comme honorable pour se défendre et que lui, le manipulateur, celui qui a des droits, et là, il se passe dans la tête de l'enfant, de l'adulte, ce qui se passe d'autres circonstances qu'on appelle le syndrome de Stockholm, que la victime, il commence à se sentir dans la peau de l'agresseur et qu'il a l'agresseur, il a raison et moi j'ai tort. Mais parlons pas maintenant de ce phénomène de Stockholm, de ce que je passe. Je veux se passer chez un enfant. La tête, il comprend pas. Lui, il est juste, il a le droit et moi j'ai pas le droit. Alors donc, ce qu'il fait, soit c'est juste, donc c'est permis de faire ce qu'il fait. Si une fois ça rentre dans la tête de l'enfant que ce que l'adulte lui a fait, c'est permis, et ça se fait à ce seul homme quand il est grand. Si jamais ça se guérit pas, on lui change pas la tête, alors quand l'enfant il est grand, il va peut-être aussi faire de la même chose. C'est pour ça, souvent, malheureusement, ceux qui a subi ces choses-là et il n'a pas guéri la chose, après quand lui il sera grand, ça peut se répéter. Soit qu'il dit que non, en vérité c'est moche ce que l'autre il a fait. Oui, c'est moche. Mais il a quand même le droit de faire quelque chose de moche et on doit accepter les choses moches, les gens. Et les gens, ils se sont dégradés et je dois me sentir dégradé et l'autre, il a le droit de me dégrader. Et moi, je perds mes droits de se défendre. Je dois vivre d'une façon honteuse et avec culpabilité et parfois dans une terreur pratique. L'agresseur, il peut dire, si tu dis un mot, je te tue. Et l'enfant, il a peut avoir 7 ans ou 9 ans, il croit vraiment que l'autre il va venir avec un couteau pour le tuer. Et il peut commencer à faire dans le lit, il peut plus dormir la nuit, il travaille plus à l'école, avec toutes les conséquences que les psys racontent, que les victimes après en racontent. Ou même, il peut dire, je vais tuer ton père ou ta mère, ou quelque chose plus fin que ça, il peut dire, je vais me suicider moi. Si tu parles, je serai à la prison. Si l'agresseur, il est tellement sûr qu'il peut le coincer, il peut avouer que c'est interdit. La police va être à la prison, je perds ma parnassa, et toi, tu seras fautif. Et déjà, et l'enfant, il regarde, il se sent fautif, il s'enferme dans ce mutisme. Tout ce que j'ai dit ici, ça, c'est des choses connues. Tous les gens qui ont assisté ou qui ont entendu, ce sont des choses qui sont racontées par des milliers, par des dizaines de milliers, par des centaines de milliers de victimes. Ils racontent ce récit. Chacun avec, ça c'est le fond de l'histoire. Et certaines personnes, ils ont après du mal à se marier, et tout. C'est pour ça qu'il faut guérir ces choses-là, il faut faire sortir les choses. Plus vite qu'on fait guérir, plus vite ça sort. Et plus tard que ça sort, ça peut se réveiller 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ça peut exploser. Et souvent, ces gens-là, après, ils ont des grands problèmes, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut déceler chez les enfants. Et s'il y a quelque chose qu'il parle, qu'il dit, il faut le calmer. Tu n'es pas fautif. Si l'autre, il est fautif, c'est l'autre qui est fautif. Et Tamar, elle a bien compris au début. Elle a hurlé. Elle a hurlé parce que sa douleur, elle avait une douleur. Et Absalom, il a dit, tais-toi. Et là, il est arrivé, c'est passé autre chose. Maintenant, on va aborder peut-être une autre partie. Quelque chose qu'on étudie, mais en principe, les gens ne remarquent pas qu'est-ce qui se passe, comment l'attouchement il se trouve dans la Torah, dans un passage. Est-ce que quelqu'un il sait où ça se trouve dans la Torah? Mais c'est, comme j'ai dit, normalement, il ne faut pas toucher les choses parce que c'est tellement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a quand même quelque chose à redouche dans la Torah. Un jour, J'avais un grand-père, c'était un jour très chaud, et il était assis à la grande chaleur, et trois Arabes sont passés. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de mon grand-père. Trois Arabes, ils sont passés, mon grand-père leur a donné à manger, à boire, oui. Et après, il y en a un de ces trois, il a dit, vous savez, votre femme, elle aura un enfant l'année prochaine. Mais non, ma grand-mère, elle a dit quoi? Mes 90 ans, je vais avoir un enfant. Et mon grand-père, il est venu, Dieu, il peut tout faire. Très bien. Toute cette histoire-là, tous les Mefarshim, ils posent la question, pourquoi il fallait un malach pour annoncer la naissance? Même s'il n'y a pas de malach qui annonce. À Kadosh Baruch Hu voulait faire le miracle. Notre grand-mère, elle a accouché à 90 ans. Elle va accoucher même s'il n'y a pas de malach qui annonce. Pourquoi il fallait un malach qui annonce? Est-ce que tous les personnages dans la Torah, tous les personnages de la Torah, il y a une annonce de malach? Non. Pourquoi ici? Oh, il y a beaucoup d'explications, on ne va pas raconter, mais seulement ce qui est un nogué à l'Inyaneinu, peut-être on peut dire un chidouche. Pourquoi pour la naissance des Yitzhak, il y avait besoin d'une annonce? Parce que la Torah nous raconte qu'Abraham, il est arrivé à Gerar, et là-bas, il y avait un roi, Abimelech. Abimelech, il a vu Sarah, et l'a pris dans sa maison. Elle est restée une nuit dans la maison, et le malach, il est venu chez Abimelech, et Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas mourir. Tu as pris une femme mariée. Et Abimelech, il se défendit devant Hachem. Hagoé gam tzadik taharok. Est-ce que tu tues même un homme innocent? Alors, où Amarli, Achoti, lui m'a dit, c'est ma sœur. Elle m'a dit, c'est mon frère. Ben, Tom Levavi, ou Benikon Kapaya, si tisot, avec la naïveté de mon cœur, avec des mains propres, je fais ce que je fais. Et à ce moment-là, il s'est levé le matin, tous les palais royaux étaient malades, tout le monde était malade, il ne pouvait plus aller aux toilettes, c'était la catastrophe. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les servants et les servantes, c'était piquoir nefesh pour tout. Et il a appelé Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme? Il a dit, il n'y a pas d'irat shamayim ici, si je dis que c'est ma femme, tu aurais été capable de me tuer. Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Abimelech, qu'est-ce que tu as dit? Avec la naïveté de ton cœur et les mains propres, tu as agi. Je sais, moi, Hachem, tu as agi naïvement. Tu n'as pas fait exprès, je sais. Et c'est pour ça que je ne te tue pas si tu rends. Demain matin, tu vas rendre cette femme et tu ne vas pas mourir si tu rends. Elle lui va prier pour toi. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as fait betom levavcha avec ton cœur. Naïf, mais Dieu n'a pas dit bénikon kapaï avec des mains propres. Rachid dit parce que les mains d'Abimelech n'étaient pas propres. Pourquoi ils n'étaient pas propres? Rachid dit, il a touché Sarah avec les mains. Mishmosh yadayim yeishkan, il a touché. La Torah nous raconte sur Abimelech qu'il a touché Sarah. Tu n'es pas tzaddik comme tu te fais passer. Tu as touché cette femme avec les mains, tu n'as touché pas plus, c'est vrai. Le reste t'a empêché de lui faire un aveu. Pourquoi la Torah nous raconte ça? En quoi c'est important à savoir? En quoi c'est important à savoir? La suite de l'histoire. Tout de suite après, Hachem, Paka, de Tzara, Kacher, Amar, Matar, Sarah. Et Sarah, elle est tombée enceinte d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe dans cette histoire? Imaginons-nous qu'il n'y avait pas de malach qui serait venu. Imaginons, il ne serait pas malach. Malach ne serait pas venu. Et Sarah, elle rentre chez son mari à la maison. Et Abraham, il dit, bon, Rambam, Sarah, je savais que comment ça se passait la nuit. Il me dit, il m'a pas fait d'avera. Il m'a touché, le monsieur. Il t'a touché. Avimelech. Il t'a touché. Qu'est-ce qu'Abraham, il aurait fait? S'il n'avait pas su que le Malach lui a dit, bon, l'année prochaine, ton fils y naîtra. L'année prochaine, c'était dans 6 mois, un jour. C'était pile avant. C'est maintenant, je dois avoir l'enfant avec Sarah. Suite maintenant. Il n'y a pas le temps. Akadéboukh, il a promis. Peshana Acheret, ce jour-là, tu auras un enfant. Et les 6 mois étaient terminés. Et maintenant, il fallait vivre avec Sarah et 6 mois après un enfant. S'il n'y avait pas eu des malades, qu'est-ce qu'Abraham il aurait fait? On ne sait pas. Ce n'est pas le bon moment d'avoir un enfant. Ce n'est pas le bon moment. Bon, de toute façon, depuis 90 ans, tu n'as pas eu d'enfant. 9 ans. La chance est petite. Mais on ne sait pas. On ne connaît pas ces choses-là, comment ça se passe. La Torah nous raconte, Jean va à Malach. Et il va dire, ce Malach, il prépare le terrain. Tu vois, Abraham et Sarah, sachez, dans un an, il faut que l'enfant il sera là. Moi, Dieu, je vais m'occuper. Coûte que coûte. Sous-entendu, s'il y a un événement qui va vous choquer, vous continuez et il sera qu'il doit venir. Bon, ça c'est des rechagaf, c'est pas important pour notre sujet. Mais il faut savoir quelque chose. Il y a des gens qui se taisent. Pourquoi? Quand un enfant il raconte, ou pas, les enfants racontent aux parents, un adulte, il sait. Faut pas faire des vagues. Ne racontons pas à personne. Mieux vaut se taire. Un peu, on a peur de l'autre. Et on a peur de ce que les gens ils vont dire. Et des fois, c'est très pénible. C'est de la famille. Ce sont des gens importants. Ça peut être des gens importants ou dans la famille, il y a des gens importants. Ça peut être des enfants, des gens très importants. Ça peut être des gens avec beaucoup d'influence. Et c'est très pénible. C'est très pénible de publier. Et au-dessus de tout, il y a un frein. La Torah nous dit « l'otikom velotitor ». Ne te venge pas. L'oticom velotitor. Alors, ce l'oticom velotitor de ne pas se venger, quelqu'un qui m'a fait du tort, et moi, je demande justice, est-ce que je transgresse l'oticom velotitor? Demander la justice, quelqu'un qui dit sur moi, des choses vilaines à ce shalom. D'ailleurs, il faut faire attention de jamais motzi la sur quelqu'un si c'est faux à ce shalom. Faire très attention de ne pas publier des choses qui sont faux. Mais si c'est vrai et je publie, est-ce que je transgresse l'oticom velotitor? Ça s'appelle l'interdit de venger. Alors, la Gemara dit non, mais c'est Yuma. Mais avant la Gemara Yuma, d'abord, il faut connaître quelque chose. Comment traduit l'oticom velotitor? Ne te venge pas. Ouais? L'otitor, ne le garde pas sur le cœur. C'est quoi le cas? Pour les enfants, Hogan, ils le savent. C'est quoi l'exemple? Un homme, il vient chez son voisin, chez un copain, il dit, tu peux me prêter ta faucille pour que je coupe le blé? Il dit, non, je ne peux pas te prêter. Je sais qu'il a une faux. Il ne veut pas me prêter. Il est pas très serviable, ce type-là. Le lendemain, l'autre voisin, il vient, il dit, tu peux me prêter ton marteau? Il dit, non, je ne te prête pas le marteau comme tu ne m'as pas prêté la faux hier. Il transgresse l'oticom. Le prince Kama. Maintenant, l'otitor. Il dit à l'autre, tu peux me prêter ta faux? Non, je ne te prête pas. Le lendemain, il vient dire, l'autre, il vient, tu peux me prêter ton marteau? Il dit, moi, je te prête le marteau. Je suis comme toi, que tu ne m'as pas prêté hier. Moi, je suis gentil, je te prête. Je transgresse l'auditor. Très bien. Ça veut dire, ce n'est pas des comportements bien. Oh, faut oublier. Il ne t'a pas prêté. Ne le pense pas sur le cœur. Ou tu mets la mitzvote, il a pas mal dormi aujourd'hui, ou il a besoin aujourd'hui, ou sa grand-mère lui a dit de ne prêter pas, ou je sais pas quoi manger. Oublie l'histoire. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi Chachamim, ils ont interprété l'otikon ve l'otitor? C'est quand il ne voulait pas me prêter et moi je ne lui prête pas. Pourquoi Chachamim, ils n'ont pas interprété? L'autre, il m'a cassé le doigt, ne lui casse pas le doigt. Proven, il vient, il donne un coup et casse le doigt de Shimon. Et bien Shimon, il vient le lendemain, il casse le doigt de Rouven. C'est ça le pshat l'otikom. Ne te venge pas, il te fait tort, tu lui fais tort. Achamim, ils ne disent pas comme ça. Achamim, ils disent, il t'a privé d'un chesed. Il ne voulait pas être gentil avec toi, mais il t'a rien fait de mal. Tu lui as demandé de prêter, il ne voulait pas prêter. Tu n'as pas fait du mal. Seulement, il n'était pas gentil avec toi. Ça, c'est l'autre qui convient. Mais si l'autre, il t'a fait du mal, quelqu'un, il m'a cassé le doigt, je vais aller au tribunal. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour. Monsieur, oui, il m'a cassé le doigt. Et tu parles à son arabe, tu m'as cassé le doigt. J'ai des témoins, ou même son témoin, tu vas m'avouer. Mais monsieur, on n'accuse pas des gens. Mais il m'a cassé le doigt. Alors vous voulez quoi? Soit qu'il me paye, au moins qu'il demande Mechila, au moins qu'il demande Mechila, ou je paye, j'ai du mal. Il n'a pas fait exprès. Oui, mais pas exprès aussi. Pas exprès aussi, il n'a pas le droit de faire. Mais pas exprès, qu'est-ce que tu veux? Tu sais déjà guéri, quelqu'un, le médecin t'a guéri gratos. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors tu demandes Mechila. Pour ça, tu m'as amené au Bedin. Pour ça, tu m'écris devant tout le monde ici. Et tu te venges sur moi. J'ai transgressé se venger. Non, je ne transgresse pas. La Torah me permet, il me fait tort. Je veux la justice. Et le demander justice n'est pas une faiblesse. C'est un droit. C'est un droit de reconstitution. C'est mon droit. Tu m'as méprisé. Tu m'as cassé le doigt. Tu m'as payé bochette, honte. Chevet, nezek, tsar, ripou, chevet, bochet, cinq choses. Tu m'as cassé, ça me fait honte, ça me fait mal, ça m'a mis en arrêt de travail. Tu peux gagner d'argent. J'étais au lit. Tu me payes tout ça, monsieur. S'il ne fait pas exprès, on ne paye pas tout, on ne paye qu'une chose. Mais Mechila, il faut toujours demander, monsieur. Non, je ne demande pas Mechila. Tu ne me demandes pas Mechila, tu es un voyou, tu es un rachat. Oh, tu exagères. Non, il leur demande Mechila. Non, non, je ne demande pas. Tu es un rachat. Ah, tu venges. Ah, c'est moi qui... Sûrement le méchant. Oui, tu transgresses l'otikom. Ah, c'est moi le méchant et toi, tu es le gentil. Ça s'appelle inverser le fautif. L'agresseur veut mettre la charge. Ça, c'est simple, mais... Les cas, ils sont beaucoup plus compliqués des fois. La manipulation, comment les agresseurs amènent après au tribunal les histoires. Mais ce n'est pas moi qui a commencé, c'est lui qui a commencé les trucs et j'étais obligé de me défendre, je l'ai cassé. Mais non, ce n'était pas comme ça, ce n'est pas moi qui a commencé, c'est toi qui a commencé. Les agresseurs, il y en a parmi eux des professionnels de manipulation et qu'ils ont des ruses. Le simple ne peut même pas comprendre comment ça fonctionne. Les gens simples, contrastent selon on a affaire une fois avec un professionnel de manipulation, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'il existe des gens comme ça. Bon, la police, et les avocats, les trucs qui sont déshabitués, ou les psychiatres, les psychologues, ils connaissent la partie... faible de l'homme, ils savent que l'homme, il est comme ça et comme ça. Ça existe une partie noire de l'homme, même si l'homme, il est blanc d'un côté, il est noir et peut être méchant. Pour ceux qui s'arrivent la première fois, je ne savais pas que ça existe. Et avec ce genre de sentiment, des enfants de 8 ans et des 10 ans et des 12 ans, des 14 ans et des 18 ans, ils doivent lutter. Un agresseur qui me dit que c'est moi le fautif, et c'est lui le tzaddik, et si moi je parle, il menace ma famille, et moi je suis le fautif, et je suis le tzaddik. Et ça crée Cela met un désordre dans la tête. La vengeance et la justice rétablie. Il faut faire très attention. Quand je dis maintenant vengeance, faisons attention comment se venger. Mais le droit, c'est le droit. Dans la Torah, ça existe. Ne comme Nikmat Bene Israël Metamidianim l'a fait. Ça existe une Nakama qui reconstitue les. Quand on ressent le sentiment d'être rabaissé, humilié, nié, la vengeance répare, faire vivre quelque chose de peu agréable à une personne qui nous a fait souffrir, nous redonne notre dignité qui a été piétinée. L'autre, il m'a humilié injustement avec des gestes dégradants. Je suis humilié. Je réclame. Je veux me venger. Je dois voir que toi, tu seras humilié. Et ça, c'est dans la Torah. Maintenant, ça existe certaines cultures où la vengeance, on tue. Bon, il y a encore une autre chose. Ça existe quoi, la dame, dans la Torah, mais rentrons pas des temps. Ça, c'est pas. Ce n'est pas ça le sujet, mais que l'autre sera puni et reconnu que moi je suis la victime et l'autre il est l'agresseur. C'est important, ça fait partie de la guérison. Et Avshalom, il a dit à Tamar, tais-toi. Et après, il s'est vengé grave. Il ne faut pas avoir peur. Et si l'autre il veut utiliser Dieu pour se défendre, si toi tu es un enfant religieux, Baruch HaShem, et l'agresseur, il sait que l'enfant et la famille sont des juifs religieux. Non, monsieur, vous n'allez pas aller à la police. Mais on est entre nous. Et j'ai une femme et des enfants. J'ai une femme et des enfants. Vous n'allez pas aller à la police. C'est péché. Vous êtes un moïseur. Vous êtes un moïseur. Moïseur, il a fait. Tu as donné un juif, tu vas le balancer. Non, vous n'allez pas le faire ça. Votre père veut se retourner dans leur tombe. Pour le moment, c'est mon fils qui se retourne dans le lit. Mon père dans la tombe. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il veut. Donc, pourquoi mon père il se retourne dans la tombe, monsieur? Pour le moment, c'est mon enfant, il souffre. Vous gagnez quoi que je serai à la prison? Mais que mon enfant, il sait. Et ça dissuade d'autres. Anish Mobirao, ça dissuade d'autres personnes. Il y en a d'autres personnes qui peuvent tourner dans le monde. Il n'y en a pas un agresseur. Et c'est beaucoup plus courant quand les gens s'imaginent. Quand ils vont voir, oui. Oui, oui. Celui-là était à la prison, et celui-là et celui-là. Et les gens y parlent. Mettra la vindicte publique. Alors les gens commencent à avoir peur. Il faut que la peur change du camp. Il ne faut pas que la victime a peur, mais que l'agresseur et les futurs agresseurs potentiels qui ont peur. Ça, c'est sain. Ça c'est, mais il faut faire attention, il faut être sûr que c'est vrai. Les agresseurs, ils jouent sur le, ils ne peuvent jamais me prouver, c'est toujours parole contre parole. Souvent c'est parole contre parole, mais ça c'est quand c'est un contre un. Comprendre à qui croire. Mais quand c'est 5 contre 1, quand c'est 10 contre 1, et quand quand il y a des synonymes, tu t'enfermes, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Et quand il y a des témoignages qui se croisent, il y a beaucoup de gens qui auraient voulu parler contre leur agresseur. Et tout le monde pense que je suis seul et je ne sais pas qui est l'autre. Et seul, l'autre, il va m'attaquer pour diffamation. Il faut avoir des nerfs forts, aller devant le juge et témoigner. L'autre va menacer. Ah, j'ai oublié la chose, laisse tomber. Voilà, la vie continue. Mais la vie continue en vérité, il est blessé. La vie continue pas bien pour lui. S'il y en a d'autres qui interviennent, moi aussi j'étais agressé. Moi aussi. Ah, s'il y a des témoignages qui concordent de tous les côtés. Ah, c'est tous des menteurs. Il y en a 10 personnes dans 10 villes différentes et tous se sont mis ensemble contre vous. Ah oui, oui, on veut me tuer. On en a une arabe. Bon, racontez votre. Ah, racontez à d'autres. Il n'y a pas 10 menteurs, il y a un menteur. Pas 10 menteurs, il y en a un menteur. Je ne dis pas une halakha maintenant, mais je dis que chaque chose, il faut à sa place. Mais en tout cas, c'est une mitzvah pour un de renforcer l'autre. Si un, il veut porter plainte, un autre qui est aussi victime, qu'il prend la courage, c'est une mitzvah pour renforcer lui, comme ça, il ose. Et ce n'est pas dénoncer. C'est faire la justice, c'est faire une kama qui est saine, et c'est pour faire peur aux voleurs, et pour rétablir la vérité. Et comme ça, l'agresseur, il va moins qu'un homme. C'est comme dit David Emeler sur Iov, David, sur Yoav. David, il a dit à Shlomo, Shlomo, Yoav, ben Tsuria, Shim, et Mengera, tu les liquides dans ce monde. Yoav, je l'aime beaucoup, je ne veux pas qu'il tombe au Gehinnom après. Il faut qu'il ait la punition ici, comme ça il n'aura pas de punition en haut. David et Melech, il a demandé à Shlomo, tu tues Yoav ben Tsruya, et ta chère Asali, Yoav ben Tsruya, Meshim ben Gera, tu vas les, dans leur vie, tu vas les descendre, Bedam Sheola, comme ça, il a eu la capara ici, pas dans l'autre monde. Parce que s'il n'a pas la capara ici, il aura l'autre monde. Maintenant, il y en a des choses plus graves qui nous est arrivées. C'est vrai, les Allemands, que ce qu'ils ont nous ont fait, que les Juifs qu'ils ont passé, ça, c'est, on peut dire que c'est rien vis-à-vis de ce que les Allemands ils ont fait. Mais quoi, on va demander la vengeance sur les Allemands? Non, on ne demande pas. Parce que c'est trop gros. Bah, c'est d'autres choses. C'est des autres calculs d'Akadéjo. Et, ce niveau-là, c'est bien. Un garçon, une fille, les jeunes, ils ont leur droit à leur kavod et de ne pas être humiliés. Mais il faut faire attention, si on n'est pas sûr, à ce shalom faire mot, si on peut tuer quelqu'un. Si on met dans le journal une photo et on dit « qui est-ce qui sait des choses sur ces messieurs ?» Si toi tu es sûr. Si c'est sûr, mais si on n'est pas sûr, on a des doutes. Quelqu'un, j'ai des doutes si c'est un voleur, je vais marquer dans sur WhatsApp et sa photo. Vous connaissez sur ce monsieur s'il y a quelque chose à reprocher, si c'est faux, ou quelqu'un m'a raconté, vous savez, l'autre il m'a volé 100 000 euros. Quelqu'un vient chez moi, je vous dis un secret, j'ai dit preuve, il m'a volé 100 000 euros, regardez, hey, tu saoules, et tu es convaincu, et tu marques sur WhatsApp. Vous connaissez un peu le comportement de ce monsieur? Et si c'est faux ce qu'il m'a raconté, c'est vrai, mais c'est autrement mérité, il n'était pas fautif, c'est lui qui est fautif, ou les deux sont fautifs, les deux. Et entre-temps, on a mis publié sur lui, on a mis la doute chez des gens. On peut tuer un homme innocent. On peut tuer. Il faut être attention de ne pas faire ça. Ça, il ne faut pas faire. Mais quand les gens y parlent, et les choses se comportent et tout. Et là, on demande, cherchant des témoignages, soit une mitzvah. Et une mitzvah, c'est marqué dans la Torah, Im lo yagit venasa avono. On le bedina pour quelqu'un. Venez, monsieur témoin. Vous avez assisté. Avec ça, je vais terminer. Il est marqué dans la Torah. Quand un homme, il dit à l'autre, tu m'as fait tort. Ta voiture, t'as cogné ma voiture, tu dois me payer. L'autre dit, non, 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 c'est vous qui m'avez cogné. Mais non, c'est vous que... Non, c'est le contraire. J'ai des témoins. Venez, revenez chez moi. Vous étiez à côté, vous avez vu. Non, 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 j'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Il est marqué dans la Torah. Tu sais le témoignage. Im lo yagid venasa avono. Ceux qui tiennent un témoignage et ne témoignent pas, venasa avono, c'est un péché. Quand tu témoignes, l'autre il va récupérer les 1000 euros qu'il a fait casser sa voiture. C'est parce que toi, tu n'as pas de courage de témoigner, tu ne veux pas des histoires, tu te tais. Alors, l'autre, il perd les 1000 euros. C'est péché. On n'a pas le droit de faire ça. Il me l'a dit, guide. On a ça avant, non. Dis-le. Maintenant, des fois, c'est trop difficile. L'autre, il menace à mort. C'est autre chose. Il menace à mort et tout. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas psychologiquement. Mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Ce n'est pas une avéra. Et si l'autre dit, c'est un avéra de témoigner contre moi, non, non, c'est. Vous m'avez fait tort, vous me payez, monsieur. Alors, je vous paye sans tribunal. Alors, je vous paye combien voulez-vous? Je veux 100 000 euros. Non, alors, je ne paye pas. Bon, alors, je vais aller. Non, tu me dénonces. Alors, payez-moi les 100 000 euros. Bon, alors, je vous paye 60 000. Bon, d'accord. Alors, donne-moi 60 000 et c'est réglé. D'accord, on peut s'arranger comme ça. La Torah permet d'un arrangement. Pas besoin d'aller au tribunal. Et si l'autre, il dit, tu n'as pas le droit de témoigner, lui, il a le droit de témoigner. J'ai fait tort à l'autre. J'étais témoin, j'étais à côté. Que c'est vous que vous avez cogné la voiture, monsieur. Il y a quelques jours qu'on nous aide à utiliser toutes ces paroles qui ont bon notion, qu'on ne fait pas du tort, qu'on fait perdre son tort à ce sujet. Les choses, ils arrivent à le moment où il y a beau. Et shalom, toujours, Bézat Hashem.